Dans le domaine moral, la caractéristique principale des années 60 a été la révolution sexuelle avec le fameux slogan « Faites l'amour et pas la guerre ». À partir de cette époque, la société occidentale a ôté la plupart des garde-fous qui balisaient les attitudes et les comportements sexuels. La liberté de tout faire est devenue le dieu qui domine tous les autres. Les bonnes gens veulent avoir le droit de se comporter comme bon leur semble, quand ils veulent et à n'importe quel prix, même si cela entraîne l'avortement d'un enfant non désiré ou une maladie sexuellement transmissible. Comment en sommes-nous venus là? Un certain nombre de croyances humanistes considérées comme fondamentalement vraies sous-tendent cette vision du monde. Premièrement, on croit que l'homme est foncièrement bon. Cela veut dire que toutes les activités dans lesquelles des personnes consentantes souhaitent s'engager sont acceptables, à quelques exceptions près quand même, comme le viol ou les exactions contre des enfants. Et même ceux qui commettent de tels délits écopent tout au plus un tout petit peu de prison, car il faut le rappeler, même les êtres malfaisants sont naturellement, fondamentalement bons. Et tant pis pour les innocents qui font les frais de ce mensonge. À ce sujet, et contrairement aux philosophies humanistes, l'enseignement des Écritures est cohérent avec la réalité. En effet, Dieu sait comment protéger les êtres humains des criminels. Il a décrété que ceux qui commettent des infractions graves doivent être exécutés publiquement dès qu'ils sont reconnus coupables. Quand on y réfléchit, les circonstances atténuantes ou les vices de forme ne sont jamais que des artifices, des astuces procédurières et judiciaires qui permettent aux malfaiteurs d'échapper au châtiment et souvent de frapper à nouveau. La deuxième fausse vérité qui sous-tend les croyances populaires en matière de sexe est que faire l'amour n'est qu'une fonction biologique comme les autres qu'il faut satisfaire et ne pas s'embarrasser de préjugés moraux dépassés. Troisièmement, le sexe est une forme de divertissement comme une autre, et donc on peut en profiter à tout moment. Quatrièmement, satisfaire les besoins sexuels est l'un des principaux buts de la vie. Pour certains, il est même plus important que d'établir des relations durables. Cinquièmement, il est bon de satisfaire ses besoins dès qu'on le souhaite. En conséquence, les expériences sexuelles avant le mariage sont normales et désirables. Sixièmement, le sexe est l'aspect le plus important du mariage et doit donc être inclus dans toute relation sentimentale. Par conséquent, un couple devrait cohabiter avant de se marier. À l'époque de l'apôtre Paul, la perversité sexuelle de la culture gréco-romaine était pire que ce qui se passe aujourd'hui, puisque la pédophilie était répandue et non sanctionnée. Non seulement ça, mais il faut ajouter à ce sombre tableau l'influence des religions à mystère qui avaient développé la prostitution rituelle dans les temples païens. Elles enseignaient à leurs fidèles que les relations sexuelles avec une prostituée sacrée leur permettaient d'entrer en communion transcendantale avec la divinité du lieu. Par exemple, le temple d'Aphrodite, situé sur l'acropole de Corinthe, employait 1 000 000 de prêtresses. On comprend donc que pour les habitants de l'Empire romain, n'importe quelle conduite sexuelle était banalisée. Les Thessaloniciens, à qui Paul écrit, sortaient de ce milieu et ne bénéficiaient pas de l'influence d'une tradition morale chrétienne qui, éventuellement, fit cesser ces pratiques dépravées. Leur arrière-plan était constitué de débauche et de brutalité. C'est dans un tel contexte que l'apôtre Paul, Sylvain et Timothée arrivent à Thessalonique et annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tous les païens qui l'acceptèrent ont dû rompre avec leur ancien style de vie et apprendre les voies de Dieu et donc vivre à un haut niveau de pureté morale. Ces croyants étaient confrontés à un défi de taille, car les vieilles habitudes et la pression de l'environnement les tiraient constamment vers le bas. L'apôtre en était tout à fait conscient et c'est pour cette raison qu'il commence l'application pratique de cette épître avec des exhortations sur le plan sexuel. Je continue à lire dans le 4e chapitre de la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité. Verset 3. Dans d'autres versions, le mot « sainte » est traduit par « sanctification ». Mener une vie sainte ou être sanctifié est l'œuvre du Saint-Esprit qui sépare le croyant du péché et le met de côté pour Dieu. Il est mis à part pour lui. Cependant, dans les Écritures, le mot « sanctification » peut définir trois situations. La position initiale du croyant, sa marche avec le Seigneur ou son état final et éternel dans la gloire. En premier lieu donc, quand quelqu'un met véritablement sa confiance en Jésus-Christ et en lui seul, il est déclaré saint dans sa position par rapport à Dieu. Parce qu'il est placé en Jésus qui devient pour lui sa sainteté. Je suis saint parce que je suis en Christ. Comme ce phénomène ne dépend que de Dieu, du sacrifice du Christ et de l'action du Saint-Esprit, cette position dans laquelle le croyant est placé ne peut plus jamais changer. Elle est scellée, une fois pour toutes, pour l'éternité. Sous le régime de l'Ancien Testament, l'Éternel a enseigné des grandes vérités théologiques à son peuple au moyen de leçons pratiques toutes simples. Ainsi, dans la tente de la rencontre, aussi nommée tabernacle, il y avait tous les accessoires qui servaient à adorer l'Éternel et qui servaient aussi au sacrifice d'animaux. Ils étaient en métal et on peut être sûr qu'au bout de 40 ans de bons et loyaux services, les plats, les casseroles, les couverts et je ne sais quoi, avaient subi les rigueurs de la marche dans le désert. Ils avaient perdu l'aspect du neuf depuis fort longtemps. Pourtant, même bosselé et tordu, cette vaisselle est appelée sainte ou sanctifiée parce qu'elle était utilisée uniquement pour rendre un culte à Dieu. Ce concept de sainteté dans le sens non pas moral mais de mise à part pour le service de Dieu s'applique aussi bien aux objets inanimés qu'aux personnes. Quand quelqu'un accepte la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il est réservé pour Dieu et lui appartient, ce qui le rend séparé, saint ou sanctifié. Ceci concerne tout croyant et pas seulement ceux qui sont engagés dans un ministère cultuel. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ sont saints parce qu'ils sont en Christ et mis à part pour Dieu afin de le servir. Voilà pourquoi ils doivent se garder du péché. Dans une autre épître, Paul écrit « Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Fin de citation. Le croyant est saint grâce à sa position en Jésus-Christ, mais il expérimente aussi une sanctification pratique qui est progressive dans le temps et qui dépend à la fois de l'action du Saint-Esprit dans sa vie et de son obéissance aux directives des Écritures. Le but de cette sanctification est d'éloigner toujours davantage le croyant du péché et de produire en lui une sainteté qui se traduise dans sa vie. Ce processus continuera aussi longtemps que je serai dans cette chair, mais n'atteindra jamais la perfection parce que le péché habite toujours en moi. Finalement, et en troisième lieu, il y a la sanctification absolue qui sera réalisée quand j'aurai atteint l'état éternel. À ce moment, chaque croyant sera rendu conforme à la sainteté et perfection du Christ. Précédemment, dans sa prière, l'apôtre a demandé à ce que les Thessaloniciens soient sans reproche dans la sainteté devant Dieu notre Père. Au vu de l'immoralité ambiante qui régnait dans l'Empire, l'apôtre considérait que s'abstenir des péchés sexuels était la première des priorités pour les croyants. Quand Paul dit « ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de toute immoralité », le mot pour « s'abstenir » est très fort. Il signifie « ne rien avoir en commun avec toute forme d'immoralité qui est contraire au principe de la parole de Dieu ». Le mot grec pour « immoralité » est « porneias » qui a donné en français « pornographie ». Il décrit toute forme de relation sexuelle qui est déviante et qui divergent des normes de Dieu qui sort du cadre d'un mariage légal entre un homme et une femme. Je lis un passage. « Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. » Fin de citation. Soit dit en passant que Jésus est allé encore plus loin dans ses exigences quand il a dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. » Fin de citation. Je continue le texte aux Thessaloniciens. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Versets 4 et 5. À l'époque de l'apôtre Paul, tout comme aujourd'hui, les gens fonctionnaient en obéissant aveuglément à leurs émotions et pulsions. « Fais ce qui te plaît » était et est toujours l'ordre du jour. Mais le croyant est responsable devant Dieu de contrôler ses passions et pour ce faire, il doit bien se connaître et surtout bien connaître ses faiblesses, les tendances au mal qu'il habite. Tout le monde n'est pas tenté avec la même intensité et par les mêmes choses. Certains sont gloutons et ne peuvent se contrôler jusqu'à presque éclater, tandis que d'autres doivent éviter d'être en présence d'une jolie fille aguichante. D'autres encore sont pris par la passion du jeu ou s'emportent très vite. Si je connais les tentations auxquelles il me serait difficile de résister, je pourrais m'arranger afin de les éviter au maximum. Le croyant doit vivre dans la sainteté et l'honneur. L'honneur est généralement lié à des exploits guerriers. C'est en tout cas comme ça que l'armée américaine recrute. Mais pour l'apôtre, celui qui sait maîtriser son corps aura un style de vie honorable, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais aussi de lui-même. Il pourra marcher la tête haute. Paul ajoute qu'un croyant ne doit pas se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. L'essence du paganisme est de se laisser aller à ses pulsions primaires, à ses passions naturelles dont la tendance est d'enfreindre la loi divine. Mais les croyants n'agissent pas ainsi. Ailleurs, l'apôtre écrit ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Et encore, faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Parce que les croyants appartiennent au Dieu trois fois saint, ils ne doivent pas succomber aux multiples tentations immorales que la société humaniste païenne leur propose. C'était vrai pour les Thessaloniciens et ça l'est également pour nous. Je continue le texte. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fais justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Verset 6. Les mots traduits par « causer du tort » et « porter atteinte » signifient tous deux « abuser, utiliser à ses propres fins ». D'après le contexte, Paul a en vue l'adultère dont les conséquences sociales et spirituelles sont particulièrement destructives car ce péché porte atteinte non seulement à chaque personne concernée, mais aussi à l'intégrité du ou des couples et donc des familles. Ceci dit, en second lieu, l'exhortation de l'apôtre pourrait également s'appliquer aux hommes d'affaires qui se disent croyants. En effet, le climat capitaliste sauvage dans lequel nous vivons est devenu un vaste coupe-gorge qui favorise la prolifération des coupes-jarrets prêt à tout pour conquérir quelque part supplémentaire du marché. Paul avertit les Thessaloniciens, et nous par la même occasion, que Dieu fait justice de toute faute de ce genre, c'est-à-dire qu'il se venge de ceux qui agissent en loup-garou, que ce soit dans le domaine sexuel ou celui des affaires. Je continue le texte. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Verset 7. C'est la troisième fois dans ce passage que Paul utilise un mot ayant « saint » pour racine. Les Thessaloniciens n'ont pas seulement été appelés par Dieu pour être sauvés, mais aussi pour vivre d'une manière sainte dans toute leur vie et surtout donc dans le domaine sexuel. Jésus-Christ a un objectif pour les croyants. Il veut se présenter son Église, c'est-à-dire tous les membres de son Église, à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Je continue le texte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Verset 8. L'exhortation de l'apôtre de s'abstenir de l'immoralité sexuelle est un commandement qui vient de Dieu, qui donne l'Esprit Saint aux croyants. Comme son nom l'indique, la caractéristique de la troisième personne de la Trinité est la sainteté. Éventuellement, tous ceux qui ont véritablement accepté Jésus-Christ dans leur vie auront le désir de vivre d'une manière sainte. Une des raisons pour lesquelles Dieu leur a donné le Saint-Esprit est pour les aider à surmonter le péché et à manifester les fruits de l'Esprit. Dans une autre épître, Paul en dresse une liste partielle. Il écrit « Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Fin de citation. Ce n'est que par l'action du Saint-Esprit dans sa vie que le croyant est rendu capable de s'élever au-dessus de sa condition de pécheur et de mettre en pratique les enseignements des Écritures. Je continue le texte. « Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites de ma part, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès. » Versets 9 et 10. Après avoir exhorté les Thessaloniciens à s'abstenir de l'impudicité, Paul parle maintenant du véritable amour chrétien que les croyants sont appelés à manifester les uns envers les autres. Il ne s'agit pas d'une émotion éphémère, mais d'une démonstration pratique d'affection par des actes qui est d'origine divine. Le mot pour « amour fraternel » est « Philadelphia »,« Philadelphie » en français, et qui est aussi le nom d'une grande ville des États-Unis. À l'origine, ce mot désignait l'affection des membres d'une famille, mais dans le Nouveau Testament, il exprime toujours l'amour des croyants les uns pour les autres. Ce thème est très fréquent dans le Nouveau Testament. Le véritable amour, selon le point de vue des Écritures, consiste à servir les autres et à satisfaire leurs besoins légitimes. Plusieurs passages, surtout sous la plume de Jean, qu'on a surnommé l'apôtre de l'amour, déclarent même qu'il est impossible pour un croyant de ne pas aimer ses frères. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et dans une autre épître, Jean écrit « Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Fin de citation. L'apôtre Pierre dit la même chose quand il écrit « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Les Thessaloniciens étaient un exemple dans l'amour qu'ils manifestaient les uns pour les autres, mais aussi envers tous les croyants qu'ils rencontraient. Cependant, dans tous les domaines de la vie et de la marche avec Dieu, il est toujours possible de faire des progrès. Tout comme Paul voulait que leur foi en Dieu augmente encore, de même il désirait que leur amour s'intensifie, littéralement qu'il abonde davantage. Plus loin, l'apôtre précise sa pensée, disant que cet amour devait être dirigé vers leur pasteur, les autres croyants et tous les hommes. Je lis le passage. « Nous vous demandons, frères, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères. Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. » Fin de citation. C'est aussi Jean qui résume le mieux l'importance de l'amour avec deux petites phrases coup de poing quand il écrit « Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »